Suite de nos discussions sur la COP26 et identité de la politique étrangère canadienne.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui en ce vendredi 29 octobre. On va pouvoir parler d'environnement pour faire suite à la semaine dernière et aussi de politique étrangère canadienne avec nos deux invités. Jocelyn Coulon pour la politique étrangère canadienne, mais tout d'abord, nous retrouvons Patrick Bonin de Greenpeace. Notre premier invité de la semaine, c'est Patrick Bonin, le porte-parole de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada. Bonjour, Monsieur Bonin.
Bonjour.
Donc, je vous reçois aujourd'hui pour discuter de deux sujets. Donc, premièrement, principalement la COP26, mais avant toute chose, on va pouvoir discuter avec vous de la nomination de Monsieur Guilbeault à l'environnement, ou plutôt enfin un spécialiste de l'environnement et non lié à l'industrie de l'énergie qui est nommé comme ministre de l'environnement. Donc, quelle est votre réaction à cette nomination?
C'est une bonne nouvelle, là. Monsieur Guilbeault a de l'expertise au niveau climatique, évidemment, connaît les acteurs au niveau canadien, québécois, mais également au niveau international. Donc, on espère que ça va marquer une accélération là, de la lutte au changement climatique au niveau fédéral et surtout qu'il y a eu aussi une nomination de l'ancien ministre de l'Environnement qui maintenant va être aux ressources naturelles. Ça veut dire que pour la première fois, probablement qu'on aura un ministre des ressources naturelles qui ne sera pas le défenseur et le porte-parole de l'industrie pétrolière au sein du cabinet. Donc, c'est somme toute positif.
Il était quand même un peu lié aussi, M. Wilkinson, quand même à l'industrie des ressources naturelles avec des anciens postes, néanmoins. Donc, est-ce que c'est quand même un changement qui est bienvenu, cette arrivée de M. Guilbeault à la place de M. Wilkinson?
Je vous dirais que M. Wilkinson a quand même fait du bon travail au sein du gouvernement à titre de ministre de l'Environnement. C'est une personne qui s'est démontrée quand même pragmatique. Évidemment, le grand enjeu, c'est quelles sont les directives que reçoit le ministre de l'Environnement de la part du gouvernement, de la part de M. Trudeau. Mais M. Wilkinson, je vous dirais que oui, il a travaillé, entre autres, au niveau des technologies propres, entre autres, à certains égards, avec l'industrie pétrolière, mais ce n'est pas une personne qui est associée à l'industrie pétrolière et gazière, comme on l'a vu historiquement au sein du ministère des Ressources naturelles.
Quelle est votre petite réaction face aux critiques provenant de l'Ouest disant que cette nomination est une sorte d'insulte ou un doigt d'honneur donné aux citoyens des prairies?
Ben, je pense que les gens de l'industrie pétrolière et gazière, sans surprise, montent au front pour critiquer la présence d'un environnementaliste au sein du ministère de l'Environnement, mais ce genre de critique-là est totalement infondé. C'est certain qu'on ne voit jamais ce genre de critique pour un économiste à l'économie, pour un docteur à la santé, pour un professeur à l'éducation. Donc, c'est aucunement surprenant. On sait que l'Ouest va augmenter le plus la pression possible sur M. Guilbeault, mais je pense que en ayant justement un ministre des Ressources naturelles avec lequel M. Guilbeault est habitué de travailler, ils ont une bonne relation ensemble. Pour la première fois, on espère avoir un gouvernement qui va se tenir debout devant l'industrie pétrolière.
Donc, ce que vous disiez juste avant était quand même assez intéressant, c'est M. Guilbeault, il va recevoir une aide de route de la part du Conseil du Premier ministre. On sait que la plupart du temps, les différents travaux des ministres du gouvernement sont des travaux qui sont demandés par des lettres de mission de la part du Conseil du Premier ministre. Est-ce que vous pensez que M. Guilbeault aura assez d'influence et d'indépendance politique dans son action, ou est-ce que vous pensez aussi que la mission donnée par le ministère du Premier ministre sera aussi assez importante face aux défis climatiques qui nous attendent?
C'est une excellente question, et en fait, ce qu'on espère, c'est que non seulement M. Guilbeault aura toute la marge de manœuvre dans les lettres de mandat, donc le mandat qui lui sera confié par le premier ministre, parce que le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, c'est en quelque sorte la personne qui est responsable d'être le chef d'orchestre gouvernemental pour le plan d'action. Et ce plan d'action-là, ce n'est pas que le ministère de l'Environnement qui doit y contribuer, c'est l'ensemble des autres ministères, les ressources naturelles, les infrastructures, le transport et le patrimoine même, je dirais. Et donc, en ce sens-là, il faudra que les autres lettres de mandat de la part de M. Trudeau soient en rapport et mettre la question climatique comme priorité pour tous les autres et toutes les autres ministres, parce que c'est pas vrai que M. Guilbeault arrivera à faire virer le Canada, qui n'est pas en voie d'atteindre sa cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, si M. Guilbeault est le seul au cabinet. Donc, ça prendra un effort d'équipe, et à commencer par M. Trudeau, qui, si on regarde ce passé, a promis beaucoup en changement climatique,
mais a réussi
à acheter un pipeline et a fait preuve d'incohérence majeure qui font que le Canada est dans la situation où on est actuellement.
Donc, afin de lutter contre les changements climatiques, pour vous, quelles doivent être les grandes lignes de cette nouvelle mandature?
La priorité, très clairement, c'est que les libéraux aillent de l'avant avec leur engagement électoral qui, pour la première fois, a dit « Nous allons plafonner les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier. Mmh. » Et non seulement les plafonner, mais les réduire rapidement avec des budgets aux 5 ans, donc des cibles aux 5 ans, pour s'assurer d'être en ligne avec les réductions pour arriver à la carboneutralité 2050. Mmh. Ça implique évidemment que rapidement le gouvernement doit arriver avec un nouveau projet de loi. Encore une fois, ce ne sera pas facile parce que l'industrie pétrolière et gazière fera tout pour éviter d'avoir ça. Mais très clairement, c'est la seule voie à suivre pour le Canada parce que le secteur pétrolier gazier, c'est le secteur le plus polluant, plus que les transports même. Et c'est le secteur où les émissions sont en augmentation en raison de l'augmentation de la production. Donc ça, c'est la première chose à faire et s'assurer, encore une fois, une promesse électorale de ne plus financer, de ne plus subventionner l'industrie pétrolière et gazière. Et ça, je vous dirais, permettra entre autres non seulement de dégager de l'argent pour financer la transition et financer des alternatives, l'énergie renouvelable, le transport durable, mais ça ne fait aucun sens de continuer à financer l'industrie pétrolière.
Surtout que M. Guilbeault est un fort avocat pour ce changement de paradigme au niveau, par exemple, de la fin des subventions. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la production de gaz à effet de serre par l'industrie gazière et pétrolière que j'ai trouvé très intéressant. C'était dans le cadre d'une lettre de Jean-François Lisée dans Le Devoir cette semaine en réaction aux résultats du référendum sur la péréquation. Il expliquait qu'en Alberta, en pourcentage de population, alors que l'Alberta est moitié moins peuplée que le Québec, les Albertains produisent 5 fois plus de gaz à effet de serre par personne. Donc c'est au niveau transition énergétique, au niveau nécessité de transition énergétique, on se retrouve à un véritable carrefour et qu'il faudrait que le gouvernement prenne en compte ce carrefour afin d'éviter de nouvelles erreurs environnementales telles que l'achat de pipelines comme Trans Mountain.
Ben, en fait, la clé, c'est non seulement de plafonner, de réduire les émissions dans le secteur pétrolier et gazier, mais c'est de voir ce qui s'en vient au niveau international. Mmh. Si vous regardez, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, qui est la sommité internationale, la référence en termes d'énergie pour les grands financiers, pour également les gouvernements, elle dit très clairement dans ses nouveaux rapports que si on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, on ne peut plus approuver de nouveaux projets pétroliers, gaziers, d'exploiter des nouveaux gisements. Et ça, c'est pas Greenpeace qui dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc, si on doit faire ça, inévitablement, il y a des emplois qui vont se perdre à quelque part dans le secteur pétrolier, gazier. Il y a des travailleurs, des communautés qui devront se réorganiser.
Se reconvertir.
Et le gouvernement a un rôle majeur à jouer de voir venir cette transition-là, de s'assurer qu'elle sera juste et qu'on ne sacrifiera pas des travailleurs et des communautés sous l'égide d'un virage qu'on doit faire comme société. Pour ne pas les sacrifier, eh bien, faut planifier, faut identifier quels sont les secteurs qui vont décroître, comme le secteur des combustibles fossiles, et proposer des alternatives et encadrer ce virage-là pour les travailleurs et les travailleuses.
Donc, vous parliez de scène internationale. On a le Canada qui se présente à la COP26 qui commence le 31 octobre, donc la semaine prochaine. Fort d'un bilan peu réalisant, comme on en discutait précédemment, qu'attendez-vous des objectifs canadiens pour cette COP quand la carboneutralité a été proposé par exemple par différents pays comme la Grande-Bretagne et l'Australie à horizon 2050 et que déjà on voit que l'horizon 2050 c'est peut-être déjà trop tard pour que la carboneutralité ait un minimum d'impact sur la crise climatique à venir?
Il y a deux enjeux là-dedans. Déjà, 2050, c'est beaucoup trop loin. Ça devrait se faire avant 2050 pour un pays riche comme le Canada qui est quand même le 10e pays le plus pollueur de l'histoire quand on regarde toutes les émissions depuis 1850. Et la réalité est que ça prend des cibles également à court terme, en 2030 par exemple, qui soient en ligne avec ce que la science exige. Et actuellement, la cible du Canada n'est pas assez ambitieuse. Elle est moins ambitieuse que celle des États-Unis, moins ambitieuse que d'autres pays. Et il devrait relever cette cible-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau international, l'ONU, encore cette semaine, dans un rapport, nous dit si on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, c'est ce que la science nous dit pour éviter les événements, l'augmentation des événements extrêmes, les feux de forêt, les inondations, les canicules, eh bien, il faut couper les émissions mondiales de moitié d'ici 2030. Donc, en 8 ans, au niveau mondial, c'est un défi majeur. Et les pays riches comme le Canada, qui ont les moyens et qui sont historiquement responsables de la pollution, doivent assumer le leadership. Donc ça, c'est un prérequis majeur que le Canada n'arrive pas les mains vides et s'engage à relever sa cible et à dire « nous allons en faire davantage ».
J'avais pu en discuter la semaine dernière avec un précédent invité où ils ont les moyens de le faire eux-mêmes et aussi ils ont les moyens d'aider les pays en développement de pouvoir atteindre plus rapidement cette transition écologique afin que tout le monde de concert puisse réduire ses cibles le plus rapidement possible.
Ben, c'est un engagement. Si vous regardez, on remonte à 2009.
Le principe d'équité.
On remonte à 2009 à Copenhague. Les pays développés se sont engagés à financer à hauteur de 100 milliards de dollars US par année les pays en développement pour qu'ils puissent réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique. Et ça fait que tous les pays riches, dont le Canada, doivent contribuer, mais ce fonds-là de 100 milliards promis pour 2020, malheureusement, il n'a pas été complété. Il risque de ne pas l'être avant 2023. Donc, c'est certain que non seulement un pays comme le Canada doit réduire ses émissions, mais doit contribuer à la hauteur de ce qu'est sa juste part pour aider les pays qui sont frappés par les changements climatiques, souvent de plein fouet, des nations même qui sont menacées, leurs racines sont menacées, leur existence même. Pensez aux pays insulaires qui sont menacés par l'augmentation du niveau de la mer et qui doivent envisager de déménager. Donc, c'est majeur. Et là-dessus, la confiance internationale que les pays en développement ont envers les pays riches, elle est extrêmement affectée parce que les pays riches n'ont pas réduit leurs émissions assez rapidement, n'ont pas des plans assez ambitieux et n'ont pas mis le financement qu'ils avaient promis depuis 2009.
Au niveau général, pensez-vous que cette COP peut être un succès?
Je pense que la COP peut nous faire avancer dans les changements climatiques, dans la lutte internationale. Est-ce que ce sera une finalité? Clairement pas. On sait qu'on ne sortira pas de cette COP avec un plan de match très clair pour les pays et des engagements qui seraient à la hauteur de la crise climatique et qui permettraient de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Mais on veut voir une accélération, c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir des engagements supplémentaires et encore une fois se servir de cette COP-là comme étant un tremplin pour aller encore plus loin face au défi qui est probablement le plus grand défi de l'humanité actuellement, qui sont les changements climatiques.
Ben, merci beaucoup, M. Bonin, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada. Merci à vous et on se retrouve dès que vous voulez pour discuter de nouveau de questions climatiques.
Avec plaisir. Bonne journée.
Passez une très belle journée. Notre deuxième invité du jour, c'est Jocelyn Coulon, chercheur au CERIUM à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Coulon.
Bonjour.
À l'UQAM, à l'UDM, excusez-moi. Donc, on va discuter avec vous de la politique étrangère du Canada à l'orée de la nomination de Mme Mélanie Joly au ministère des Affaires étrangères, une cinquième ministre pour le ministère des Affaires étrangères depuis la première élection de M. Trudeau. Donc, que pensez de cette nomination?
Ben, écoutez, à première vue, comme ça, avoir 5 ministres des Affaires étrangères en 6 ans, ce n'est pas un signe de stabilité et de cohérence. Au contraire, on envoie le message que le titulaire du poste de ministre des Affaires étrangères au Canada, ce n'est pas pris très au sérieux par le premier ministre du Canada. Et donc, je crois que nos partenaires à l'étranger vont commencer à se demander, est-ce qu'il est utile de prendre contact avec le ministre des Affaires étrangères ou plutôt avec le premier ministre? parce que il faut bien s'en rendre compte, et je crois qu'il y a eu de nombreuses études sur cette question, c'est que le pouvoir est de plus en plus centralisé au bureau du premier ministre. C'est pas uniquement
pour les affaires étrangères, c'est aussi pour
les affaires étrangères. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres ministères. Mais là, au ministère des Affaires étrangères, je crois que nous avons battu tous les records, que ce soit à l'interne ici au Canada ou même sur la scène internationale. Je ne connais pas de pays occidental où on use autant de ministres des Affaires étrangères en si peu de temps. Même Donald Trump, qui avait pour réputation d'être brouillon, a eu deux ministres des Affaires étrangères en 4 ans.
Et qui ont gardé un peu une même continuité au niveau de la politique et de la doctrine.
Ben c'est surtout aussi comme interlocuteur.
Oui.
Alors, parce que le ministre des Affaires étrangères, évidemment, il doit coordonner son action avec le premier ministre. Les deux doivent être sur la même longueur d'onde.
Exactement.
Et lorsqu'ils ont trouvé leur marque, habituellement, le premier ministre ou le président de la République, dans le cas des États-Unis ou de la France, laisse carte blanche à son ministre pour aller de l'avant avec les grandes lignes de la politique étrangère. Visiblement, c'est pas ce qui arrive au Canada, et on nage un peu en pleine confusion. Peut-être aussi parce que, justement, le Canada n'a pas une politique étrangère bien plantée, bien lisible pour les Canadiens, mais aussi pour le reste de la communauté internationale.
C'est quelque chose qui ressort beaucoup, surtout avec la mise de côté un peu du Canada dernièrement, dans, par exemple dans le cadre de l'alliance États-Unis, Australie, Angleterre, ou dans le cadre aussi de la politique avec la Chine, ou de la politique en Arctique face à la Russie. C'est un Canada qui est un peu mis à l'arrière-garde de la scène internationale, et lié à cette nouvelle nomination, à cette cinquième nomination en 6 ans, est-ce que cette cinquième nomination est un symptôme ou plutôt de nouveau une cause de cette mise à l'arrière-garde?
Moi, je pense que c'est un symptôme. Évidemment, il faudrait là aussi avoir une part d'analyse psychologique, c'est-à-dire entrer dans la tête de Justin Trudeau, pour savoir exactement pourquoi il change de ministre des Affaires étrangères aussi souvent. Alors, faut espérer que cette fois-là, Mme Joly pourra faire un peu plus que 9 mois ou 10 mois ou 1 an. On espère qu'elle peut faire une bonne partie du mandat, ce qui lui permettra d'abord de bien prendre le contrôle de son ministère et aussi d'absorber et de comprendre les dossiers. Parce que les choses vont vite sur la scène internationale, les sommets se bousculent, le G20 dans quelques jours, et puis ensuite, l'année prochaine, on recommence avec le G7, le sommet de l'OTAN, les rencontres bilatérales avec l'Union européenne ou avec d'autres entités ou d'autres pays. Et donc, il faut vraiment être en selle très rapidement et maîtriser la plupart de ces dossiers-là pour ne pas avoir à dire des évidences.
Totalement.
Surtout si on veut faire avancer le Canada sur la scène internationale. Et comme je l'ai dit depuis 2-3 jours, je pense que Mme Joly va devoir s'asseoir avec le premier ministre pour la cadre. Il lui dit, c'est dans cette direction-là qu'on va. Voici les éléments qui sont essentiels pour le Canada, pour que celui-ci puisse retrouver son influence et aussi obtenir le respect de la communauté internationale. Parce qu'en ce moment, les relations sont pas bonnes avec la Russie et la Chine, on peut peut-être le comprendre.
Elles sont pas très bonnes avec les États-Unis aussi.
Elles sont difficiles avec les États-Unis parce qu'il y a des différends commerciaux importants, puis il y aura peut-être aussi un différend sur la question militaire de la protection c'est-à-dire du renouvellement de l'accord de défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Il va falloir négocier cet aspect-là. On a de très mauvaises relations avec l'Inde. L'Inde est la seule grande puissance qui, l'année dernière, a appelé à voter non pour le Canada au Conseil de sécurité.
Totalement.
C'est quand même incroyable. Moi, j'ai jamais vu une chose semblable.
Normalement, donc, souvent, il y a une abstention, une non-prise de position qui est un petit peu impliquée politiquement quelque chose, mais qu'on ait une grande puissance qui vienne appeler véritablement un ensemble de la communauté internationale à voter non, c'était un échec absolu pour le gouvernement Trudeau.
Voilà. Et donc, ça s'est quand même reflété, puisque nous avons perdu une deuxième fois en 10 ans la possibilité de siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Coulon. Donc, il faut se poser des questions là-dessus.
Dans votre chronique du Devoir du 27 octobre, donc avant-hier, vous parliez de la nécessité de redynamiser la politique étrangère canadienne. Donc là, on a pu voir les grandes lignes, mais quelles sont... pour vous, sur quels axes doit être redynamisée la politique étrangère canadienne? Par exemple, vous parliez de la défense, ça me faisait penser, là j'ai pu lire hier dans les journaux, que le Canada réfléchissait sur, du fait de sa mise de côté dans le cadre de l'alliance USA-Australie-Royaume-Uni, à aller acheter possiblement des sous-marins à la France, des sous-marins nucléaires à la France. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, les États-Unis avaient pu dire que le Canada n'a pas besoin de sous-marins nucléaires, étant donné que sa défense est grandement assurée par les États-Unis. Est-ce que ça peut être un moyen de redynamiser, un moyen de se réintroduire avec force sur la scène internationale et sur quels autres aspects pensez-vous que cette redynamisation peut se passer?
Alors, je pense que il faut prendre ici un peu de hauteur et voir ça d'un point de vue macro. Parce que tout ce que vous dites est juste. Mais prenons un peu de distance et posons-nous deux questions fondamentales qui pourraient ensuite nous guider dans la formulation d'une politique étrangère. D'abord, quelle est la lecture que nous faisons de la scène internationale et de ce qui s'y passe depuis une dizaine d'années? Que ce soit la montée de la Chine, les États-Unis qui prennent de la distance au Proche-Orient et même en Europe, ils sont en train de pivoter vers l'Asie, l'émergence de nouvelles puissances moyennes. Donc, est-ce que nous avons une lecture de ce nouveau monde qui est en train d'émerger, qui va prendre encore plusieurs années avant de trouver ses marques? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que cela veut dire pour le Canada, puissance moyenne, qui a souvent été très actif sur la scène internationale. Moi, j'ai expliqué dans un livre publié il y a quelques semaines comment le Canada était, entre 1945 et le début des années 2000, un acteur de la scène internationale.
Avait une véritable identité en politique étrangère.
Voilà. Ce n'était pas un observateur, c'était un acteur. Il proposait des idées, il prenait des risques, il était courageux et audacieux dans ses prises de position et dans son activité internationale. Or, depuis une quinzaine d'années, on assiste plutôt à un retrait du Canada, de la scène internationale,
une sorte de désinvestissement.
Sa concentration sur l'Amérique du Nord. Donc, on est engagé dans la construction d'une forteresse nord-américaine qui est peut-être bon sur le plan commercial, politique, militaire, mais qui risque de nous causer des surprises s'il y a un autre Donald Trump qui devient président des États-Unis.
Ou si Donald Trump redevient président des États-Unis.
Redevient président. Mais il y a un courant là aux États-Unis qui dit, comme d'habitude, de défendre ses intérêts, même avec des alliés qu'on prenait pour acquis, comme le Canada ou les Européens. Donc, il faut se poser des questions là-dessus. Et c'est ici que je dis, oui, ça serait bon de redynamiser la politique étrangère parce que nos certitudes d'avant ne sont plus là. Et donc, il faut voir venir les coups.
L'autre point, c'est est-ce que vous pensez que sous ce mandat, il y a la possibilité pour Justin Trudeau de pouvoir vraiment inscrire une véritable politique en matière d'affaires étrangères, une véritable doctrine Trudeau, parce que depuis 5-6 ans, il y a cette succession de différents ministres montre une sorte d'illisibilité au niveau de la doctrine du Canada. Et donc, au-delà de cette redynamisation, est-ce qu'il faut que le gouvernement Trudeau puisse se prendre la chance de vraiment, véritablement s'inscrire dans une doctrine de politique étrangère?
Écoutez, contrairement à tous les premiers ministres depuis Pierre-Éliott Trudeau, disons, depuis 1968, tous les premiers ministres, à la notable exception de Joe Clark qui a été là seulement 9 mois,
oui,
tous ont marqué la politique étrangère canadienne par une idée, une action qui s'inscrit dans leur héritage. Justin Trudeau et d'une certaine façon Stephen Harper sont les seuls auxquels on ne peut pas relier à une grande initiative qui va rester marquée dans l'histoire diplomatique canadienne. Et c'est assez dommage parce que, comme je le disais précédemment, nous avions une identité internationale très forte. Aujourd'hui, on est incapable de la définir.
Finalement, dernière question, quelle place pour le Canada dans le monde dans les prochaines années?
Ben, quelle place? C'est celle qu'on voudra bien se donner lorsqu'on aura procédé à cet exercice de comment nous lisons la scène internationale et comment le Canada pourrait s'inscrire dans ce nouveau monde.
Merci, M. Coulon, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes chercheur au CERIUM de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui.